Je suis désolé, je vais prendre la place de la mère prieure. Je crois qu'on va vraiment se donner le temps demain pour les questions. Dans la foulée, allez. Alors, première question. Alors, la question était, quel est le coût de ces technologies?
C'est une bonne question, et derrière cette question, il y a une question évidemment éthique et éthique majeure. C'est qui pourrait se payer tout ça? Alors le coût, enfin moi je suis pas capable de le donner. À ma connaissance, il n'y a pas de je dis bien à ma connaissance, hein, en tout cas, mais de chiffrage, d'évaluation économique de tout ça. Simplement, on peut se dire que si les plus grands industriels du monde, ce Google, Yahoo, Facebook, etc., enfin la NASA s'en préoccupe. On peut supposer évidemment qu'il y a des enjeux de marché considérables. Après, ce que disent les transhumanistes, c'est de dire que, mais de toute façon, le coût de ces techniques ne va faire que réduire. Exemple, le coût d'un, si on veut se faire, comment dire, enfin, séquencer son génome, connaître tout son ADN. Bon, voilà, il y a 10 ans, ça coûtait des fortunes. Aujourd'hui, sur Internet, on peut se faire son génome pour quelques centaines d'euros. Donc, leur argument, c'est de dire, mais de toute façon, plus ça va se développer, c'est comme la téléphonie mobile, les ordinateurs. Avant, ça coûtait des fortunes. Maintenant, ça coûte plus rien. Tout le monde en a. Donc, ça, c'est leur propos. Bon, ça me paraît personnellement parfaitement illusoire. Je pense quand même qu'on est sur des logiques qui sont eugénistes et que sera ceux qui auront accès à des sélections, parce qu'il y aura quand même de fait dans cette logique-là des sélections d'humains, de performances, etc., ça sera quand même sur l'argent que ça se fera. La deuxième remarque, c'est que aujourd'hui, je dis bien je ne vois pas, je dis pas qu'il n'y aura pas, mais je ne vois pas aujourd'hui de régulation internationale, politique, de nature éthique. La seule régulation finalement possible, c'est un peu comme ce que je disais sur les nanotechnologies tout à l'heure, ça sera peut-être une question justement de coût. Peut-être que ça coûtera tellement cher que finalement ça ne verra pas le jour. Un exemple, le Concorde. Le Concorde, finalement, c'était à l'époque, et la France était à cette époque-là un leader industriel, c'était de fait quelque chose d'extraordinaire. Et les concepteurs du Concorde, c'était de dire, on va développer les vols supersoniques de tous les côtés, on ira à New York en 3 heures, on ira à Sydney en 6 heures, etc. En fait, les vols supersoniques ne se sont, l'industrie du supersonique ne s'est jamais développée. Voilà. Pourquoi? Parce que, de fait, il y avait des enjeux de coûts et des résistances industrielles autour. Alors, ce que je dis est d'une certaine façon pas très optimiste, et ça l'est aussi, pas très optimiste, parce que moi, la seule régulation que je vois aujourd'hui de transhumanisme, c'est celle du marché. Donc, c'est pas très optimiste. Et en même temps, ça veut dire qu'il peut peut-être y en avoir une, comme les exemples que je donnais sur les nanotechnologies. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses incroyables, mais qui ne sont pas du tout mises sur le marché, parce qu'il n'y aurait plus du tout aucune industrie manufacturière, et qu'on sait déjà même plus quoi faire des gens qui cherchent du travail. Vous avez vu ce rapport qui est sorti il y a quelques semaines, où en France, la robotisation dans les 15 ans qui viennent, c'est moins 3 millions d'emplois en moins. Voilà. Et le colloque sur le transhumaniste où j'étais hier, les projections à 25 ans, c'est colossal. Colossal. Donc, voilà, derrière la question des coûts, sur lequel moi je ne suis pas en mesure de répondre et où je n'ai rien vu, il me semble que ça peut être finalement aussi une issue une régulation possible en tout cas.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi des limitations intérieures, internes au travail des scientifiques? Je me souviens d'avoir entendu une fois le professeur Mattei qui disait, lui qui commence à être un peu âgé, il y a 20-30 ans, on avait des grandes espérances du côté de la génétique et du côté aussi de la. Comment ça s'appelle, de la reproduction à l'identique, du clonage, et puis on voit qu'en fait, on n'y arrive pas. Donc, dans tout ce que vous avez présenté de manière assez optimiste, est-ce qu'il n'y aura pas aussi une auto-limitation dans le domaine médical, par exemple?
Nous verrons. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Tu évoques le professeur Mattei, mais le professeur Mattei est un humaniste. J'évoquais François Jacob tout à l'heure, enfin la phrase que disait François Jacob en 1972. Bon, l'autolimitation, oui, d'une certaine façon. C'est vrai que le clonage de la brebis, hein, de lit. Oui, mais j'écoutais professeur Friedman samedi. Vous savez, professeur Friedman, c'est comme on dit, le papa du premier bébé éprouvette, Amandine. Voilà. Voilà, c'était intéressant. Il refaisait un petit peu l'histoire. Il était sur les perspectives, notamment. Donc lui, génétique, hein, enfin sa spécialité, son expertise, c'est la génétique reproductive, évidemment. Et voilà, ce qu'il décrivait, là aussi, qui existe dans les laboratoires aujourd'hui, était terrifiant. Donc la régulation éthique, peut-être, je dis pas que non, mais je dis peut-être simplement parce que aujourd'hui, on est capable, comme je disais, de réorienter des cellules. Je vais essayer d'illustrer un peu mon propos. C'est que les cellules, en fait, on a tous en fait un patrimoine génétique qu'on appelle pluripotent. C'est-à-dire qu'en fait, nos cellules, en fait, elles ont toutes le même ADN, et donc possiblement toutes les cellules peuvent donner des cheveux, des yeux, des pieds, des ongles, des ovaires, des spermatozoïdes, des ovules, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle le phénomène de différenciation, voilà, qui fait qu'une cellule, à un moment donné, elle va faire que du cheveu, ou du cheveu blanc, par exemple, voilà, ou qu'un œil. Aujourd'hui, en fait, on est capable de dédifférencier des cellules, donc de les ramener à leur état pluripotent, et ensuite de les réorienter pour leur demander de faire ce qu'on a envie qu'elles fassent. Ça veut dire que, en fait, c'est ce que je disais très rapidement tout à l'heure, aujourd'hui, on est capable, en fait, on va prendre une cellule de doigt, on va dédifférencier ces cellules, donc les ramener en pluripotent, et sur un paquet de cellules, on va leur faire produire des ovules, et sur un paquet de cellules, des spermatozoïdes. Et donc, en fait, ce que racontait le professeur Friedman, c'était que il y avait déjà des industriels aux États-Unis, en fait, qui s'étaient mis sur le rang pour produire, du coup, de façon industrielle, des ovules et des spermatozoïdes. Donc peut-être qu'il y aura une régulation éthique quand on sera vraiment au stade de commercialisation. Hein. Je conteste pas. Je dis que voilà qu'il y a des lobbies lesbiens, donc homosexuels, féminins, lesbiens aux États-Unis, qui voyant cette découverte, justement, ben on dit bon ben voyez finalement tout ce qu'on nous dit que la GPA, le machin de bilu, il y a même plus besoin de GPA, puisque finalement un individu seul et donc a fortiori un couple homosexuel. Donc l'idée c'est que on prenne par exemple s'il y a deux conjoints femmes par exemple, on prenne une cellule de doigt de la femme numéro 1, une cellule de doigt de la femme numéro 2. Bah avec les cellules de la numéro 1, on va produire du spermatozoïde, les cellules de la numéro 2 des ovules, et avec ça ils auront leurs enfants. Voilà, et Friedman disait qu'en fait, il y avait déjà des expérimentations qui étaient aujourd'hui en place en Scandinavie, aux États-Unis. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de régulation éthique, c'est pour dire qu'elle ne sera certainement pas portée, cette régulation éthique, par tous les chercheurs, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement, au niveau de la communauté internationale, de lieu de régulation éthique. Nous, on a en France le comité éthique, bon, très bien, qui fait des recommandations généralement qui viennent après les choses, c'est pas une critique, mais enfin souvent un peu en réaction. Mais au niveau international, il n'y a pas véritablement de régulation. Donc peut-être qu'il y en aura, et je pense que certaines équipes se limiteront, probablement. Mais aujourd'hui, on peut, par exemple, je suis une femme, je veux avoir un enfant, et un enfant, justement, dont je choisisse la couleur des cheveux, etc., et le QI. Aujourd'hui, je peux. Je vais sur Internet. Voilà, j'ai fait un blog là-dessus. Si le site vous intéresse, vous pouvez trouver le. Voilà. Et en fait, il y a une base de données en fait de donneurs de sperme, avec une enquête sur le donneur de sperme. Est-ce qu'il est grand, petit? Est-ce qu'il a un QI élevé, pas élevé? Quelle est sa profession? Est-ce que, enfin, en gros, tout ce qui nous permet de supposer que effectivement les spermatozoïdes seront à l'image de son maître, on l'achète, voilà, plusieurs centaines de dollars, et on se le fait livrer chez soi. Et avec ça, on va voir son gynéco et on lui dit, bah, merci de me faire l'insémination artificielle. Ça existe aujourd'hui. Alors en France, on n'en parle pas parce que c'est interdit de recevoir effectivement des spermatozoïdes comme ça par la poste, mais il y a des tas d'autres pays en fait où ça se fait, dans les pays du Nord ça se fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura peut-être une régulation éthique. Je pense qu'elle sera portée par des François Jacob s'il vivait encore, par des Jean-François Mattei et par d'autres, hein. Mais ils sont pas majoritaires et en outre Jean-François Mattei, il est quand même d'une génération sortante. La génération montante, ils n'ont pas forcément, pour le coup, une culture humaniste comme pouvait l'avoir la génération d'un Mattei, par exemple. Donc, à voir. Mais, voilà.
Et une fois qu'on nous aura mis plein de robots dans le cerveau et tout ça, qui est-ce qui va les diriger? Parce que alors, ça veut dire qu'il y a quand même une puissance qui est au-dessus, qui va diriger tout le monde. Donc, c'est de la dictature.
Oui, fondamentalement, je pense que c'est Je pense que ce que n'aura pas réussi le maoïsme ou le nazisme, et pourtant ils ont mis les moyens, voilà, ces technologies peuvent y parvenir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ma petite sortie très rapide, ma petite saillie très rapide sur le fait que on croit vivre dans une hyper-démocratie parce que, etc. En réalité, pas du tout. On vit dans ce que moi je considère une soft dictature, c'est-à-dire une dictature soft, c'est-à-dire on se rend pas compte, quoi. Mais la question posée, elle est centrale. C'est-à-dire, effectivement, qui sera aux manettes de tout ça? Et on le voit déjà avec ce qu'on appelle la problématique des big data. Je sais pas si vous dites quelque chose. Le big data, c'est ces milliards de données, finalement, qui circulent tout autour de la planète. Toutes les données que l'on a dans nos smartphones, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, nos internets, nos machins et nos bidules. Donc big data, ça veut dire les grandes données, toutes ces données. En fait, où est-ce qu'elles sont? Personne n'est capable de dire où est-ce qu'elles sont. Sauf les fournisseurs d'accès sont dans des endroits ultra secrets. Voilà. Il paraît que souvent ce sont dans des fermes américaines, parce qu'on se dit que jamais on irait penser que c'est dans des bottes de foin. Enfin, je vous disais, si vous allez aux États-Unis, vous allez visiter une ferme, fouiller dans la botte de foin, il y aura peut-être votre carnet d'adresses là-dedans. Mais la vraie question, c'est effectivement qui dispose de ces données aujourd'hui et demain, qui aura la possibilité de effectivement décider. Et ça, c'est effectivement une question qui, pour moi, fait voler complètement en éclat les modèles démocratiques de toutes nos sociétés construite en gros depuis 500-600 ans, quoi. Et effectivement, là, aujourd'hui, il n'y a aucune réponse à ces questions, et il risque pas d'y avoir de réponse, puisque de toute façon, la question n'est pas posée, et elle risque pas d'être posée, puisque, en l'occurrence, c'est certainement pas Google et consorts qui ont intérêt à poser ces questions. Donc, pour nous faire avaler la pilule, c'est le cas de le dire, en fait, on a inventé le marketing. Le marketing, c'est une vraie science qui est très utilisée par les transhumanistes, qui consiste à nous convaincre qu'il faut acheter l'iPhone 6, même s'il n'y a absolument aucune apport supplémentaire par rapport à l'iPhone 5, mais il faut quand même acheter l'iPhone 6. Et ça, évidemment, avec les télés, les téléphones, les machins, les bidules. Donc, le rôle du marketing, il y a même une science qui s'appelle le neuromarketing. Enfin, je veux dire, c'est quand même du lourd, quoi. Le neuromarketing, donc le marketing, c'est nous faire accepter un produit, et le neuromarketing, c'est toutes les techniques, justement, cognitives, et neurologique, voire pharmacologique, de manipulation mentale, neurologique, pour nous faire justement approprier, acheter des produits. Donc la question que vous posez, elle est vraiment pour moi absolument majeure, c'est vraiment la question la plus grave, c'est que ça sera une poignée de bons hommes, encore une fois, que personne n'aura élu, que personne n'aura jamais vu, voilà, si ce n'est le patron d'Apple, le patron de Microsoft, le patron de Google, qui apparaissent tous comme des gens super sympas, super cool, super humanistes et détendus, qui lèguent la moitié de leurs milliards de dollars à des pauvres Africains. Donc là, on se dit, c'est géniaux. Sauf que tout ça, c'est de la com, quoi. C'est pas la vraie vie, tout ça, quoi. C'est pas la vraie vie. Donc, j'ai pas de réponse à votre question, mais en fait, ça, c'est une question absolument majeure pour l'avenir de, effectivement, de nos sociétés. Et là, pour le coup, je vous renvoie à toutes les œuvres du science-fiction, type Globalia, type Bienvenue à Gattaca, enfin, je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, qui sont respectivement des films et des, pour moi, les films et livres qui sont les plus clairs sur le fait que l'humanité, finalement, appartienne à une poignée de bons hommes, qui, effectivement, décident de l'humeur de chacun, s'il faut justement que les gens soient plutôt en colère, plutôt tranquille, plutôt content, plutôt pas content, enfin, etc. Quoi.
Je pose la question aussi de tout ce qui est le côté du handicap, parce que finalement, dans le propos, il y a toutes les questions aussi, tout ce qui est le cancer, toutes les choses finalement, on a l'impression, enfin, tu me corriges si c'est pas vrai, mais on a l'impression qu'en fait, ça maintenant, on s'en fout, on va l'éliminer à la base. Et du coup, on n'est pas trop dans les recherches finalement de soigner beaucoup de maladies, non? Enfin, il y a dans ces théories-là, non?
Ouais, ben là tu soulèves une question importante. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu pour moi une question à double détente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de communication sur regarder ce que justement les technologies permettent. Voilà, on va permettre. Alors, il y a des choses extraordinaires. Voilà, notamment. Puisque tu parles du handicap, par exemple, du handicap physique, ce qu'on appelle les exosquelettes. Donc le squelette, enfin, il est à l'intérieur de nous, hein, c'est notre colonne vertébrale, nos côtes, enfin, etc. Et puis l'exosquelette, c'est des squelettes artificiels extérieurs, extérieurs à nous, qui vont permettre, si par exemple j'étais paralysé du bras ou de la jambe, j'aurais un exosquelette qui entourerait mon bras et ma jambe, qui serait connecté à mon cerveau, et par le phénomène d'impulsion en fait électrique, je vais dire « je veux que mon bras se lève », et de fait mon bras se lèverait. Donc là pour le coup, là aussi c'est pas la science-fiction, hein, ça existe, hein, de plus en plus. Bon, ça coûte des fortunes, etc., mais ça existe. Voilà. Donc là on est sur finalement une application en termes de soins. Mais en fait le problème, c'est que dans la logique transhumaniste, on s'arrête pas là. Dans la logique transhumaniste, c'est comme le but, c'est de toute façon d'éliminer la souffrance, la fragilité, la mort. Au bout du compte, des personnes qui ont un bras paralysé, il y en aura plus. Comme aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui sont atteintes de trisomie 21. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est exactement pareil. Donc c'est là où je dis que c'est un truc à double détente. C'est-à-dire qu'à court terme, on a tout le discours sur le c'est génial parce qu'on fait des prouesses, ce qui est vrai. Hein, voilà, ce qui est vrai, ce sont des vraies prouesses et qui rendent service et qui soignent. Mais là où il ne faut pas être dupe, c'est qu'à terme, finalement, on va faire disparaître effectivement toutes les fragilités. Hein. Et donc les personnes fragiles. Voilà. Voilà. Et c'est là où il faut faire preuve de discernement et ne pas tout jeter à la poubelle, parce que de fait, les progrès médicaux, les progrès psychiques aussi ont eu lieu parce qu'il y a eu des recherches, il y a eu des choses qui de fait qu'on est mieux soigné aujourd'hui qu'hier. Il n'y a pas photo. Et probablement demain, on sera mieux soigné demain qu'aujourd'hui, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se joue derrière? Encore une fois, quelles limites on se donne? Est-ce que la médecine est là pour finalement remettre le cours d'eau dans son lit naturel, en gros corriger effectivement un dysfonctionnement? Ou est-ce que la médecine est là pour, au contraire, modifier profondément la nature humaine, hein? Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la question ne se posait pas. La médecine était là que pour corriger un dysfonctionnement, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va aller vers une médecine, ce qu'on appelle performative, hein, qui est une médecine de performance. Donc, la question que tu dis est vraiment importante. C'est vraiment une question, à double détente, quoi. Mais soyons lucides. Derrière l'amélioration des choses aujourd'hui en termes de soins, il y a quand même, chez beaucoup de transhumanistes, l'idée de faire disparaître effectivement les fragilités, les personnes fragiles. Donc.
Le professeur Lejeune ne parlait pas tellement de régulation éthique, mais il avait comme idée que la première utilisation d'une découverte était déterminante pour son avenir. Et il prenait l'exemple des vaccins, en disant on aurait pu utiliser cette découverte pour inoculer des maladies, et non, au contraire, la première utilisation a été pour sauver des vies. Et alors, est-ce que ça rejoint tout à fait, ce serait la suite de la question précédente? Est-ce que vous auriez justement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un des détenteurs de ces savoirs pourrait utiliser positivement ces découvertes? Est-ce que ce serait au niveau individuel? Est-ce que ça pourrait être au niveau des pays, d'une régulation internationale? Pour le, par exemple, Nord-Sud, enfin, est-ce qu'il y aurait quelque chose à apporter? Est-ce qu'il y aurait des... Voilà.
Oui, mais ça rejoint effectivement la question un peu de la... À la fois, les deux questions de ce côté-là,
oui,
de l'amphi.
À chaque fois, on a vu le côté négatif en disant, ben oui, forcément, des gens peuvent prendre le pouvoir, ou on peut éliminer les fragilités. Est-ce qu'il y aurait, voilà, des pistes?
Mais on peut, je le souligne à l'instant, on peut aussi, voilà, réduire les effets négatifs du handicap, on peut réduire l'isolement, on va pouvoir évidemment soigner beaucoup plus les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Non, mais là, on est dans la réparation, je dirais.
Oui. Mais après, la question, c'est effectivement la question de la. C'est là où, en tout cas, moi, je ne vois pas aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, c'est essentiellement des industriels qui mènent le jeu. C'est pas des hommes politiques. Aujourd'hui, il y a aucune réflexion à niveau politique. Ça n'a pas atteint en fait le registre politique. Ça commence à atteindre le registre en fait de voilà des philosophes et le thème voilà choisi pour ce week-end le montre. Mais on n'est pas encore aujourd'hui sur finalement une problématique qui intéresse des décideurs, sauf les décideurs industriels. Alors industriels, je mets Google dedans, enfin etc. Tous ceux qui font du génomage ou de l'industrialisation du génome, de la sélection de gènes, etc. Donc eux, en fait, il y a une régulation, mais qui est une régulation, je dirais, de la production industrielle, avec, comme je disais, une philosophie affirmée, explicitée, qui est l'amélioration de l'humain. Et ça, on peut considérer que c'est positif, cela dit, d'avoir plus de mémoire, de courir plus vite, etc. On peut le considérer. Je pense que là où effectivement il y a une vraie difficulté, c'est qui régule tout ça, à quel niveau en fait on se pose des questions. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lieu à l'échelle internationale où on se pose ces questions. Sauf d'une façon extrêmement prosélyte, pour le coup, quand on reproche aux chrétiens d'être prosélytes, ça fait doucement rigoler, parce que quand on voit comment les transhumanistes, en l'occurrence, sont prosélytes pour faire avancer leur modèle, avec des techniques de marketing, de communication d'une puissance extraordinaire, pour vendre justement des choses positives. Et mais encore une fois, je ne conteste pas qu'il y en ait hein, des choses positives. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat de nature démocratique, politique, sociétale. On va débattre à n'en pas finir, savoir s'il faut mettre effectivement la bouteille de plastique dans le conteneur vert ou dans le conteneur jaune. Et là, ça va être des démissions de ministres du gouvernement parce que voilà, ça va pas assez vite pour changer la couleur des conteneurs. Parce que ça met en danger, effectivement, la planète. Bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais par contre, une question aussi profonde et essentielle de où se joue le débat démocratique, sociétal, à un niveau national, à un niveau européen, à un niveau mondial, sur, effectivement, la robotisation de l'humain, sur les conséquences de la robotisation sur le monde du travail, qui est déjà à feu et à sang sur toute la planète. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et pourquoi personne n'en parle? Parce que, justement, je pense que il y a une poignée qui ont à peu près tous les pouvoirs et qui font en sorte de nous montrer que les aspects de c'est sympa, quoi. C'est sympa d'avoir plus de mémoire, d'être immortel, et puis on aura tous à manger à notre faim, etc., etc., etc. Donc moi, j'ai pas vraiment de réponse à votre question, si ce n'est que de constater qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de débat. Le seul espoir, c'est qu'on commence quand même à en parler de plus en plus dans les médias, dans la sphère intellectuelle, y compris chrétienne, mais pas exclusivement. Et on peut espérer qu'à un moment donné, ça viendra peut-être quand même au niveau des politiques de tous les pays. Avec la limite que les enjeux industriels sont absolument majeurs, et que vu le climat de guerre industrielle qui se livre entre les différents continents, je doute notamment que les États-Unis mettent un frein à ce qui est pour eux vraiment une façon de continuer à avoir une suprématie sur le monde encore plus forte que ce qu'ils ont eu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Enfin, c'est une réflexion un peu politique, mais le transhumanisme a aussi un axe de lecture qui est un axe politique et géostratégique majeur.
Un immense merci.